Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Ex, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Allez, on va revenir sur un moment douloureux. Votre dernier chagrin d'amour. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait juste après ? Moi, je vais vous le dire. Vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, puis vous avez été en colère, puis vous avez trouvé le fameux pansement. L'infirmière ou l'infirmier, celui qui est venu commencer à vous réparer, vous vous souvenez ? Vous savez les pansements, ceux avec qui on ne construit jamais une histoire ? Il était largement temps de s'y intéresser, non ? Et croyez-moi, Valentine s'y est beaucoup, beaucoup intéressée aussi.
Je quitte la France en mai 2012 pour entamer mon stage de fin d'études à Londres. Je suis dans le e-commerce, dans le digital, donc je trouve assez facilement un stage en Angleterre, un stage de 6 mois. Qui se passe très bien. J'arrive dans une coloc avec 7 personnes. C'est l'auberge espagnole, c'est toutes les nationalités ensemble. Et à la fin de ces 6 mois, en novembre 2012, je décroche mon premier CDI dans le même secteur, e-commerce, digital. Je suis en couple avec un Danois. Ma vie se lance un petit peu à ce moment-là. Je décide en parallèle d'explorer un petit peu d'autres activités, sortir un petit peu de mon cercle de coloc. Et je voudrais reprendre le théâtre. C'est une activité que j'ai toujours bien aimée. Et je sais qu'il y a des cours de théâtre organisés par l'église française à Londres. Et donc, mi-novembre, un mardi soir, je me rends à ce premier cours de théâtre. Vraiment dans l'optique de me faire d'autres amis. Enfin voilà, j'ai un copain, j'ai un boulot. Vraiment, ce qui me manque, c'est peut-être un hobby. Donc je suis vraiment dans cette optique-là de continuer de reprendre le théâtre. Quand j'arrive ce mardi soir, les cours ont déjà commencé depuis septembre, donc j'ai pas de rôle. Je suis là plutôt en spectatrice à ce moment-là. Et il y a déjà un petit groupe de 5 personnes, c'est vraiment un petit groupe. Il y a Margot, il y a un garçon qui s'appelle Thibaut. Et c'est ce garçon-là qui va tout de suite, de toute façon, me taper dans l'œil. Il est à l'aise, il connaît déjà son texte, il donne la réplique avec assurance. Il est beau, il a des beaux yeux noisettes, il a un petit peu qui tire un peu sur le verre, il a un beau sourire, des jolies dents, une belle bouche. Il a vraiment des yeux qui pétillent quand il sourit. Moi, ce qui me séduit, c'est son assurance, c'est son éloquence, c'est la façon dont il récite son texte, sa voix porte, il est confiant, et puis il a toujours cette petite étincelle dans les yeux aussi qui me fait dire qu'il se prend pas au sérieux. Les cours, c'est tous les seconds mardis, donc c'est pas toutes les semaines, c'est toutes les 2 semaines. Moi, évidemment, j'avais pas bien compris parce que j'étais trop obnubilée par Thibaut déjà à ce moment-là, donc je suis venue le mardi suivant. Il y avait personne, il y avait pas de cours. Ça a été très long, toutes les journées sont voilà, au ralenti à ce moment-là. J'ai qu'une envie, c'est d'être à nouveau au mardi d'après pour retrouver Thibaut. Le cours de théâtre en lui-même devient totalement secondaire, puisqu'en plus, j'ai pas vraiment de rôle à ce moment-là. Non, c'est Thibaut, l'espoir de le revoir et peut-être de se parler au-delà d'un bonjour, parce que c'est vrai qu'on se dit juste bonjour. Donc, ça m'arrive parfois de lui donner la réplique juste pour qu'il s'entraîne, mais ça va pas plus loin. Le soir, on se sépare assez rapidement, quoi. Évidemment, je lui fais pas du tout part, moi, de ce que je peux ressentir, parce que oui, j'ai un copain, ça se passe plutôt bien. Je suis toujours en période d'essai pour mon boulot, donc j'essaye aussi de rester un peu concentrée. Mais non, je pense beaucoup à Thibaut et à la perspective de le revoir. Je me fais une blessure au genou et je dois déménager. Sans le savoir, je me rapproche géographiquement de l'endroit où Thibaut habite. Et c'est là où, après les cours de théâtre, on va finalement rentrer ensemble petit à petit. Voilà, c'est à ce moment-là que les choses vont un petit peu se décanter, où on va passer un petit peu plus de temps ensemble grâce à ce déménagement vers l'Est. Je suis pas du tout déçue quand je rentre en contact avec lui un peu plus profondément. Il est attentionné, il me pose plein de questions. Je me rends compte qu'on a énormément de points communs. On est né à un jour d'écart. Pour moi, c'est des petits signes, mais qui me font tressaillir, parce que je me dis, c'est pas anodin, il a juste un an de plus que moi, et il est né la veille de mon anniversaire, et il a tendance à dire, déjà à ce moment-là, que lui, c'est une esquisse, et que moi, je suis le chef-d'œuvre, comme s'il avait fallu un an pour que je naisse. Enfin bon, c'est mignon, ça me fait fondre, évidemment, il parle très bien, il s'exprime super bien, l'Est londonien, c'est pas ultra, ultra bien famé à cette époque, c'était il y a 10 ans, déjà, donc il me raccompagne jusqu'à chez moi, donc il sait où j'habite. Très galant, très gentil, non, je suis pas du tout déçue. À aucun moment, il me pose la question de savoir si j'ai un copain, et moi, je lui pose pas non plus cette question. Encore une fois, on se voit que 2 fois par mois, très brièvement sur le chemin du retour, entre le théâtre, qui est en centre de Londres, et nos appartements respectifs qui se trouvent à l'Est. On n'a pas les coordonnées l'un de l'autre, on est dans une boucle commune d'emails pour le théâtre, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est un petit crush du théâtre, et puis ça s'arrête là. Moi, en parallèle, je construis quand même quelque chose de sérieux et de solide avec mon Danois. Ça y est, c'est la représentation de théâtre. On a 3 dates consécutives. Il y a quand même une répétition générale, et puis le soir, des représentations de théâtre sur le vendredi et le samedi, et une le dimanche après-midi. Donc on va clairement passer le week-end ensemble. Bon, moi, je suis aux Lumières, donc ça me permet de l'observer, de le voir. Je le trouve super beau. Vivement que les représentations se terminent, parce que je sais pas où cela peut nous mener, et je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment de l'avenir, parce que je ne sais pas ce qu'il ressent, et moi je vais pas du tout lui en parler. Donc comme prévu, nos chemins se séparent après les représentations de théâtre. Sauf qu'un beau jour de printemps, je quitte le bureau, il fait super beau, je suis dans mon bus, j'écoute ma musique. À ce moment-là, j'écoute Emily Sandé, une chanson qui est dans le film The Great Gatsby, qui est une super musique, Crazy in Love, je crois. Et je reçois un email de Thibaut. Donc là, mon cœur fait boum, je vois son nom apparaître sur mon téléphone. C'est la première fois que je reçois un email de lui, bien sûr. Nous étions dans la même boucle d'emails, mais à aucun moment nous nous échangions de messages personnels. Et il me dit, il fait super beau, est-ce que ça te dirait d'aller prendre un verre après le boulot? Donc, bien sûr, j'accepte. Par contre, je décide quand même, à ce moment-là, de porter un pull de mon mec. C'est super étrange et paradoxal, mais je me rappelle très bien porter un pull de toutes les couleurs, d'ailleurs à rayures, très coloré, très joli, en maille, un super pull un peu grand et tout, que je porte. Comme ça, je me dis que bah, finalement, je porte le pull de mon mec, donc c'est pas si grave, quoi. Je vais boire un verre avec un pote, avec le pull de mon mec. Voilà. On se retrouve dans un bar de Shoreditch. Je me rappelle, il est déjà attablé, je me joins à lui, je m'assois en face de lui. Moi qui ne bois jamais de bière, je commande une pinte, je comprends pas pourquoi. Lui en avait déjà une devant lui, donc je me dis, bon allez, je prends la même chose que lui. Et on est plongé, mais sans rien dire, pendant peut-être les 5-6 premières minutes, on se regarde et on est, mais béat, avec un sourire complètement niais sur le visage, et Et on a la même posture, on a les coudes sur la table comme ça, et on se regarde, on est plongé dans les yeux l'un de l'autre, et on parle de tout et de rien, et la nuit commence à tomber, et c'est une soirée super où on parle énormément. À la fin de ce verre, la question fatidique, il me demande d'où vient ce pull étrange que je porte. Donc bon, je lui dis c'est le pull de mon copain. Donc voilà, ça y est, c'est sur la table, le sujet de la vie perso. Et du coup, je lui retourne la question. Et il me dit qu'en effet, lui aussi a une copine, mais qui sont en relation à distance et qu'elle est à Paris. Là, c'est un petit peu la douche froide. À la fois, je suis en couple, bon, bah lui aussi. Comme ça, au moins, on est chacun devant nos réalités. Et c'est un petit peu étrange comme sentiment. On continue à discuter malgré ça. Et on va parler un petit peu de nos projets d'été, de nos projets pour les vacances. Il me dit qu'il a prévu une semaine de vacances avec ses potes. Je trouve ça super, je lui demande où est-ce qu'ils partent, et il me dit qu'ils partent tous en Thaïlande, que ça va être trop cool. Moi, à ce moment-là, je pars deux semaines en road trip en Roumanie. Pendant ce verre, oui, je pense qu'il y a clairement un jeu de séduction. Il parle assez doucement, ce qui m'oblige un petit peu à me rapprocher de sa bouche quand il parle. Il a des yeux qui me captivent totalement. Moi, je lui dis pas nécessairement depuis combien de temps je suis en couple, lui non plus. Voilà, on sait juste qu'à ce moment-là, chacun de nous est pris. Mais on est aussi complètement absorbé par la situation et le bar va fermer et on sera les derniers à tabler. J'ai clairement un coup de cœur pour lui. Enfin voilà, on va se retrouver un petit peu tout le temps avant le bureau, après le bureau. On dit qu'on est copains, mais je pense qu'il y a plus. Même si ça paraît aberrant, il ne se passe rien. Et le week-end, je passe du temps avec mon copain et lui, sa copine, lui rend quand même visite de temps en temps à Londres. Et puis lui, va à Paris aussi quand même. Il y a beaucoup d'emails qui sont échangés à ce moment-là, beaucoup de textos. Enfin, ça va devenir une relation épistolaire parce qu'on s'écrit beaucoup. Et à la fois, on se téléphone aussi dès qu'on le peut, on se téléphone beaucoup. Lui m'invite à toutes les soirées auxquelles il est invité. Ça m'ouvre en plus plein de portes parce que je rencontre plein de Français à ce moment-là qui vivent à Londres et qui ont des parcours de vie super et qui ont des super apparts et ont fait des super soirées. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui va finir par arriver entre lui et moi, c'est certain, c'est écrit. Mais pas tant qu'il a réglé sa situation avec sa copine et tant que moi je suis en couple avec mon copain, il se passera rien. À ce moment-là, avec mon copain, on est très tendres l'un envers l'autre. Donc c'est vrai qu'au bout de 8 mois passés ensemble, on a vécu des trucs super. Bon, lui, il va devoir repartir au Danemark. Donc de toute façon, cette histoire, elle a une date de péremption. On va devoir se séparer, de toute façon, géographiquement pour commencer. Et puis, il n'est pas vraiment question qu'on continue à ce moment-là. Je pense que c'était une relation vraiment chouette, tendre. On a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Je joue avec le feu, c'est vrai, et je sais qu'à la fois cette relation va se terminer dans quelques semaines et que ça va finalement me libérer sans que j'aie à lui briser le cœur ou que lui ait à me briser le cœur. Fin juin arrive, mon Danois quitte l'Angleterre et finalement c'est, je pense, une libération un petit peu pour moi parce que ça va déclencher la rupture de Thibaut et de sa copine. Il va rompre à ce moment-là avec sa copine. On est fin juin, et donc c'est vraiment l'aube de nos vacances d'été à chacun, et on est tous les deux célibataires à ce moment-là. Après sa séparation, Thibaut m'écarte sur table, et il m'avoue que ce fameux voyage en Thaïlande qu'il a prévu avec ses copains, en fait, était un voyage prévu de longue date avec sa copine, donc son ex-copine. Seulement, à 3 semaines du départ, il lui était impossible d'annuler ses billets, ni les siens, ni ceux de sa copine. Son ex-copine a quand même envie de partir, ce que je comprends. Enfin, on est à 3 semaines des vacances. Et il me propose, malgré tout, de venir avec lui. Donc, on resitue. Thibaut et sa copine ont prévu un voyage en Thaïlande. Thibaut se sépare de sa copine, décide malgré tout de partir en Thaïlande et me propose de venir. Donc moi, je dis oui. Je réalise pas vraiment dans quelle situation je me mets parce que on va se retrouver dans une situation très cocasse où je vais rencontrer l'ex-copine de Thibaut en salle d'embarquement à Paris-Charles de Gaulle. On se retrouve dans le même avion, tous les trois. Et c'est horrible comme situation. Enfin, je me mets à sa place et voilà, elle sort d'une relation littéralement 3 semaines auparavant et je suis là, la nouvelle copine de Thibaut, assise à sa place, quoi. C'est horrible. C'est une situation extrêmement embarrassante et pour tout le monde, je pense. Alors à ce moment-là, il ne s'est absolument rien passé entre nous. Nous ne sommes pas en couple. On s'était dit, Thibaut et moi, que si nous arrivions à partir tous les deux en Thaïlande, c'est à ce moment-là qu'on concrétiserait notre histoire et qu'on se mettrait en couple officiellement. C'était vraiment la date symbolique de notre début de relation. Il n'y a pas eu de bisous, il n'y a eu rien du tout. Paris-Bangkok, on est dans l'avion, toujours rien. On arrive dans un hôtel, voilà, notre premier hôtel, notre première nuit un peu ensemble. Et c'est là que tout débute. Et bien sûr, ce premier baiser, cette première nuit, elle est inoubliable. Elle est magique. Tout est évident. On est sur la même longueur d'onde. On est en symbiose. C'est magique. Moi, j'ai l'impression d'être à l'exact moment où je dois me trouver. C'est des mini-explosions dans mon ventre. Je le sens. C'est lui. Je le vois dans ses yeux. Il y a tellement de choses qu'on s'est déjà dites par email, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dit. On ne s'est pas encore dit « je t'aime ». Et c'est sur le bout de nos lèvres, quoi. Je pense que tous les deux, on le ressent à ce moment-là. Et je me rappelle, avant même de se prendre la main, j'ai comme des fourmillements. C'est comme si ma peau reconnaissait sa peau. C'est l'évidence. Cette semaine se termine. Moi, j'ai 2 semaines de prévu donc à Bucarest avec mes amis. Et là, bah, je suis sur mon téléphone hein, pendant 15 jours. On s'envoie des messages, il m'avait recommandé des livres que j'emmène avec moi dans notre périple en train. Je raconte cette histoire à mes copains d'aventure. Et c'est génial, quoi. Je suis aux anges, j'ai trouvé ma personne, je le sais. À ce moment-là, tout me fait dire que c'est lui, quoi. Enfin, on a encore tellement de choses à vivre ensemble, on habite à côté, on a nos vies professionnelles débutent. Moi, j'ai plein de projets pour nous. C'est vrai que Thibaut et moi, c'est une évidence. Quand je me replonge dans ses emails, dans ses textos, c'est doux, c'est tendre. Je suis la prunelle de ses yeux, je suis sa priorité, je suis celle qu'il attendait. Je m'appelle Valentine, pour lui c'est un signe, je suis sa Valentine. On est nés à un jour d'écart, donc nos anniversaires sont en septembre. Donc là, on arrive au mois de septembre. Il me prépare une super chasse au trésor tout le long de la Tamise. C'est vraiment le rêve, quoi. Je vis le rêve. Seulement, j'ai moins de moments avec lui. Finalement, il est en coloc, ses copains sont très présents dans sa vie, et c'est là où je me dis, bon, bah, finalement, le statut de relation à distance, ça devait bien lui convenir, parce que il a quand même une vie très, très, très remplie en Angleterre, et moi, j'ai du mal à passer du temps qu'avec lui. Et c'est vrai que c'est ce qui me manque à ce moment-là, du temps qu'avec lui, pour vraiment profiter de ce début de relation qui m'anime, quoi. Je vis presque que pour ça à ce moment-là. J'ai tout par message, tout prêt à dire que je suis, voilà, on est tous les deux tellement amoureux et à la fois dans les faits, j'ai pas de temps avec lui. Il est plutôt en couple avec ses copains à ce moment-là, je dirais. Je m'accroche au fait que ça va finir par arriver. On va finir par se projeter un petit peu et faire des week-ends ou des vacances. Moi, j'attends ça avec impatience, mais c'est jamais le bon moment. On a 2 mariages en octobre auxquels il est invité avec moi. Enfin, je l'emmène avec moi et c'est des moments où on peut un petit peu discuter et se retrouver tous les deux, où je peux lui dire, écoute, ça serait sympa à Noël de faire ci, de faire ça. Et il y a toujours une petite réserve de son côté. Il faut quand même qu'il se renseigne si ses potes n'ont pas prévu une semaine de ski ou si ses parents n'ont pas prévu autre chose. On est en 2014, avril 2014. Je perds mon travail. Il y a une restructuration au sein de ma boîte. Et comme on m'a prévenu un petit peu en avance, j'ai eu le temps de sécuriser un nouveau job qui va commencer mi-mai. Donc j'ai 2 semaines de flottement et je décide, comme Thibaut a toujours beaucoup de mal à se projeter dans des voyages ou des week-ends, je décide, sans trop le consulter, de partir à New York. Je retrouve mon super pote qui lui part de Paris. On se retrouve à New York pour une semaine. On s'est loué un super Airbnb, sauf que 3 jours plus tard, qui débarque à New York unannounced? Thibaut. Donc là, je me dis, mais fou, il a pris des jours de vacances comme ça pour nous retrouver, c'est top. Je suis super contente, évidemment. Là, c'est vraiment la joie. Je suis un petit peu surprise quand même, parce que moi, si j'avais su qu'il était partant pour des vacances avec moi, on serait partis que tous les deux. Donc ça me redonne un petit peu de baume au cœur et je me dis qu'après tout... Ouais, il m'aime, même si on se l'est toujours pas dit à ce moment-là. Je pense que tous les deux, on s'aime. nouveau boulot commence. Je suis très épanouie dans ce boulot, je suis dans la com, ça me correspond. Dans ce nouveau job, je suis amenée à voyager, donc c'est vraiment chouette. L'été arrive, Thibaut et moi, on n'a pas de plan, on n'a pas de projet en commun, on n'a pas de vacances prévues, hormis le fait que Thibaut a un festival auquel il va participer à la fin du mois d'août. Donc c'est un festival dans le désert du Nevada aux États-Unis qui s'appelle le Burning Man. Sauf que moi, j'ai rien d'autre de prévu avec Thibaut, donc je suis un petit peu deg. Je passe pas l'été que j'avais envisagé de passer avec lui. C'est un été un peu tendu, du coup, un petit peu frustré, moi, de pas avoir de projet. Thibaut part au Burning Man, j'ai pas de nouvelles pendant 10-15 jours. Il revient mi-septembre totalement changé, métamorphosé. C'était une expérience humaine incomparable. Il en parle beaucoup à ses copains et à ses copines autour de lui, mais moi, il m'en raconte pas grand-chose. Moi, en parallèle, mon boulot se passe vraiment bien. Je me suis trouvée des amis, l'ambiance au bureau se passe bien, je suis toujours amenée à beaucoup voyager, et ça me plaît beaucoup. J'ai même l'opportunité d'acheter un appartement en septembre, et je demande à Thibaut si ça lui tente de se joindre à moi dans l'achat de cet appart. Ça peut être un projet cool à deux et tout ça, donc il est pas hyper chaud, donc je le comprends. J'entame les démarches un peu toute seule, et je trouve un appart que j'achète du coup seule. Les mois qui suivent, je sais que l'appartement que j'ai acheté est vraiment pas loin de son bureau, je lui propose d'emménager dans cet appart, même si il est pas dans le processus d'achat avec moi. Est-ce qu'on peut peut-être envisager de vivre ensemble à ce moment-là? On quitterait tous les deux nos colocs et on pourrait commencer notre vie à deux. À ce moment-là, on a 26 et 27 ans. Moi, j'ai pas de doute, je sais que c'est lui, mais j'ai simplement besoin de plus de temps avec lui pour nourrir la relation. À ce moment-là, j'ai des emails 5-6 fois par jour et je me raccroche vraiment à ça et je me dis, mais dans les faits, comment ça se traduit? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une vie de couple, quoi, finalement? Et donc, c'est difficile, c'est beaucoup de négociations, finalement, il veut pas. Donc, ok, on va entamer les périodes des fêtes un peu comme ça, c'est tendu. Moi, j'aurais bien aimé le présenter à mes parents parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose. C'est devenu vraiment le centre de mon monde à Londres. Je vis par lui. Le week-end, quand j'ai pas de nouvelles, je suis un petit peu laissée pour compte. J'ai du mal à sortir. J'ai un peu perdu cette petite lumière qui m'anime. Je suis très sociable. Je vais très facilement vers les autres. J'ai toujours plein d'idées, plein d'envies. Et là, je suis un petit peu usée et je me heurte à un mur et ça me rend vraiment très triste. Et j'entame cette période de décembre, janvier, vraiment... triste, quoi. Et un peu usée de me heurter à des refus constants et j'ai l'impression que ça s'essouffle. Je sais pas vraiment ce que j'attends, mais j'attends peut-être un signe d'engagement, un signe qui me fait dire que ouais, je suis la bonne et qui m'aime, quoi, tout simplement. Et puis il me dit, mais comment tu peux douter? Regarde les emails que je t'envoie, les textos. Et du coup, il donne sans donner, c'est très étrange. Sur le papier, vraiment, littéralement, je suis en couple et je suis aimée et je suis désirée et je suis la bonne. Mais dans les faits, ça ne se traduit pas comme ça. J'ai l'impression que je suis la troisième roue du carrosse et j'ai juste besoin de prendre une place plus importante dans sa vie, je pense. Ça fait 8 mois que je suis dans ma boîte de com. Ça se passe toujours très bien. La culture anglo-saxonne veut que autour des fêtes de Noël, on fasse des soirées, des dîners pour faire connaissance, lâcher prise et puis s'amuser un petit peu. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va fêter Noël avec notre boîte. Et donc ils ont loué un super rooftop dans le centre de Londres, ça va être super. Je me fais une joie d'y aller. Donc j'y vais. Et arrive à cette Christmas party, tout le monde au fur et à mesure, dont cet Australien que j'avais déjà repéré au bureau, que tout le monde a plus ou moins repéré au bureau, parce qu'il n'y a pas des tas d'Australiens non plus dans la boîte, et que cet Australien, il a cette particularité qu'il porte un bonnet tous les jours de la semaine. Enfin, moi, je l'ai vu porter un bonnet tout l'été, par exemple. Qui neige, qui vente, qui pleuve, il a son bonnet sur la tête et ça lui va super bien. Il a la peau mate, il a un magnifique sourire, et donc il arrive à cette soirée. Et je pensais pas du tout, mais il parle français, parce qu'il m'aborde. Il me dit avec un français un peu cassé, « Je parle un peu français, est-ce que tu veux boire un verre ?» Donc, waouh, l'Australien qui m'aborde et qui me et qui sait que je suis française et qui vient me parler en français. Donc doublement flattée. Et évidemment, malheureusement, je lui dis que non merci. Voilà, pas intéressée. Et une microseconde après, je le vois déjà danser et embrasser langoureusement une fille magnifique de la boîte. Donc voilà, il s'en est vite remis. Donc cet Australien, faut savoir que lui, il a un visa, je pense, de 2 ans à ce moment-là, et il s'amuse, quoi. C'est sa réputation, et à la fois, il est adoré, et il n'y a pas de malentendu à son sujet. Sur ce, la boîte ferme pendant 10 jours. Moi, je pars dans ma famille. On a convenu avec Thibaut de se retrouver un petit peu après les fêtes pour aller skier chez ses parents. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. Ça se passe bien, ces vacances, mais il y a eu tellement de hauts et de bas pendant ces derniers mois que je reste un petit peu meurtrie par cette difficulté que j'ai à avoir un peu plus de sa part. Donc j'entame la nouvelle année en lui proposant un peu le week-end de la dernière chance. Et il est assez d'accord avec moi et il dit « Ok ». C'est vrai, on a tous les deux un peu merdé ces derniers mois. Je t'ai fait passer en second plan un petit peu trop souvent. J'en suis désolée. On va se retrouver tous les deux, quoi. Donc je suis évidemment super contente. J'ai eu raison de détourner l'invitation du verre de cet Australien parce que Thibaut et moi, c'est du solide et on va y arriver. Et je suis hyper enthousiasmée à l'idée d'organiser ce week-end retrouvailles. J'organise un week-end à Rome. Je m'organise avec son boss à l'époque pour qu'il ait 2 jours de repos, le lundi et le mardi, et on partirait tous les deux le vendredi soir pour avoir 3-4 jours à Rome en amoureux. Donc son boss donne les jours de congé demandés et je peux, moi, réserver les billets d'avion, réserver les hôtels, etc. Et j'appelle Thibaut super contente de cette initiative, quoi. Quelques jours se passent et je reçois un coup de fil de Thibaut au bureau. Donc c'est étonnant parce que bah, il peut pas trop téléphoner normalement. Il est quand même sur les marchés financiers, donc il est pas vraiment sur son téléphone, a priori, à part pour envoyer des emails. Et il me dit « Écoute, j'ai des potes d'école qui me proposent de partir une semaine au Spring Break à Cancun. » Donc le Spring Break, c'est une fête de fin d'études des Américaines et des Américains qui descendent sur la côte est de Mexico pour faire la fête, s'enivrer, enfin... Il me dit, c'est dommage, ça tombe pile pendant notre week-end à Rome. Donc je me dis, mais non, il va pas me la faire à l'envers, c'est pas possible, pas le week-end de notre dernière chance, quoi. Le fait qu'il me mette dans la balance de cette semaine au Spring Break, ça me brise le cœur. Et dans ma tête, je me dis, s'il préfère partir au Spring Break, je pense que j'ai plus rien à attendre de cette relation. Et il me dit, voilà, écoute, je préfère aller au Spring Break, c'est le voyage d'une vie. Voilà, il me laisse comme ça avec, c'est le voyage d'une vie. Je me rappelle lui dire, si tu choisis le Spring Break, c'est fini. Bien sûr, il y a eu beaucoup de disputes durant ces 18 derniers mois, donc j'ai dû déjà lui dire que c'était fini à plusieurs reprises. Donc il doit pas forcément le prendre au sérieux à ce moment-là, sauf que moi je suis extrêmement sérieuse. Pour moi, c'est trop, c'est la goutte d'eau. C'est vraiment l'entaille dans le contrat. On s'était dit qu'on se donnait une dernière chance. Je me suis donnée sur l'organisation de ce week-end et je suis vraiment attristée par le fait que je passe à nouveau seconde, quoi. J'en parle à ma coloc, qui est donc, elle, toujours en couple avec le coloc de Thibaut, et je lui dis, écoute, je suis désolée, je vais devoir rompre le bail de notre appart, je peux plus être en coloc avec toi, j'ai besoin de m'extirper de ce quatuor qui me dessert et qui me rend tellement malheureuse. Il faut que je sorte de ce schéma-là, qui est trop toxique pour moi. Il donne qu'à moitié, je suis frustrée, je suis triste. On est mi-janvier. Je déménage dans une chambre d'amis que je paye à la semaine, du coup, en attendant quelque chose de plus stable. Et je me rapproche beaucoup de cette fille avec qui je pars à Rome, qui travaille donc dans la même boîte que moi, au 5e étage, au même étage que cet Australien. Donc, comme cette fille-là va devenir ma coloc, je suis amenée très souvent à descendre au 5e étage pour discuter avec elle de nos prochaines visites, etc. Même du voyage à Rome, comment ça va se goupiller et tout. Donc, je passe très souvent devant le bureau de l'Australien qui est toujours aussi canon avec son bonnet sur la tête hiver comme été. On trouve un super appart après de nombreuses visites dans l'est de Londres, un espèce de rooftop, un dernier étage avec une super terrasse, et là on se dit on va pouvoir faire des soirées de folie, ça va être génial. Et ni une ni deux, on se lance dans la préparation de notre pendaison de crémaillère qui aura lieu le 25 avril de cette année-là, 2015. On invite tout le bureau, on invite tous les potes du bureau, ça va être une super soirée, on est trop contentes, super soirée en perspective, et cet Australien est invité du coup par ma coloc, parce que moi je le connais pas directement, mais elle l'a invité. Donc tout le monde débarque à l'appart, c'est génial, il arrive assez tard ce soir-là, et moi, ça fait déjà quoi, 3 mois déjà que Thibaut et moi, on se donne plus de nouvelles, mais c'est très bizarre, évidemment, j'ai passé les détails de cette période, mais j'ai une période de descente aux enfers pendant 1 mois et demi où je pleure toutes les larmes de mon corps, je ne me nourris plus, au bureau on ne me reconnaît pas, j'ai aucune nouvelle de Thibaut. À partir du moment où je quitte la coloc, j'ai aucune nouvelle. C'est fini quoi, c'est fini. L'Australien, qui s'appelle David, va arriver et je dis à ma coloc, c'est David qui va m'aider à passer au-dessus de ma rupture, qui me gâche la vie. Ça fait quand même 3 mois que j'ai le cœur en 1000 morceaux, que j'arrive pas à aller vers les autres, que je suis que l'ombre de moi-même, et là j'ai l'opportunité, comme je sais que cet Australien n'a pas d'attache, je me dis bah banco, ça va être vraiment one night stand quoi. Ça va être une histoire sans lendemain qui va juste m'aider à passer à autre chose et à me dire que voilà, je suis à nouveau dans le game. David arrive, il arrive un peu tard, je le prends entre 4 yeux, le mec ne m'a quasiment jamais vu, il m'a croisé au bureau un petit peu, mais je veux dire, je sais même pas s'il connaît mon prénom. Et je lui dis, en anglais, « You are staying the night ». Voilà, je lui ai dit clairement, je lui ai affiché la couleur. C'était sans ambiguïté, ni pour lui, ni pour moi. Donc il avait l'air un petit peu étonné, mais il était pas contre l'idée. Donc il a attendu patiemment la fin de soirée, qui s'est quand même terminée très tard. Il devait être 4-5 heures du matin. D'ailleurs, il allait se coucher avant moi parce qu'il était claqué. Quand tout le monde part, je vais le réveiller. Et il se passe, on s'embrasse. Il me dit que je suis son work crush, donc que je suis son coup de cœur du bureau. Donc ça me fait super plaisir, évidemment. Puis je me dis, ah, c'est mignon, quoi. Il rend le truc un peu sympa, un peu tendre, un peu romantique presque. Il a plein de tatouages, donc je lui demande qu'est-ce que veut dire son tatouage sur le bras, sur le dos. Il est super musclé, il est ultra top canon. Il fait 1m90, il a des pectoraux, des abdos. Enfin, waouh, c'est magnifique. Il a sa casquette à l'envers, enfin, c'est complètement l'opposé de Thibaut à ce moment-là, et c'est exactement ce qu'il me faut pour passer à autre chose. Donc ouais, objectif atteint, avec brio, je suis assez fière de moi, j'avoue. D'ailleurs, je prends une photo, je prends un selfie, parce que je suis super fière, quoi, d'être sortie avec l'Australien beau gosse de la boîte. Moi, je suis sur le point de partir au mariage de mon cousin qui habite en Chine à ce moment-là. David n'a pas mes coordonnées, pas de numéro de portable, mais je suis pas du tout dans l'objectif de garder contact avec David à ce moment-là. C'était juste une histoire d'un soir pour me remettre en selle, quoi. Je pars en Chine, donc j'ai pas de contact avec David pendant 15 jours. Et je cherche pas à en avoir non plus. Sauf que quand je réatterris à Londres, j'ai un message de David sur Messenger, mais plusieurs messages. Je crois qu'il a pas dû comprendre que je partais en Chine, ou j'ai pas dû lui dire, en fait. Et il me dit, mais t'es où? T'as disparu? T'es plus à la boîte? Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, plein de petits messages comme ça. Et je me dis, mais waouh, il me chase, c'est pas possible. L'Australien veut des nouvelles, quoi. Donc je lui réponds, écoute, je viens d'atterrir. J'étais au mariage de mon cousin en Chine. J'arrive là, j'attends mes bagages sur le carrousel. Je serai à l'appart à 23h minuit. Donc si tu veux, on se voit demain. Et là, il me dit, ah non, je t'attends chez toi. Je serai chez toi à 23h, quoi. On repasse la nuit ensemble, le lendemain, pareil, enfin super, vraiment, c'est simple en fait, c'est pas prémédité, c'est spontané, il veut passer du temps avec moi, il me le dit ouvertement, il n'y a pas d'ego, il y a juste ce qu'on veut sur le moment, et c'est sympa parce que du coup, il n'y a pas d'arrière-pensée, voilà, on dit les choses comme on a envie de les dire. Alors en parallèle de ça, moi c'est vrai que ça fait maintenant 4 mois que Thibaut et moi on s'est vus pour la... Enfin, on s'est séparés. J'ai beaucoup de mal à cicatriser. Cet Australien m'aide à passer à autre chose. Il me change les idées et ça fait vraiment diversion, quoi. J'ai quasiment pas de nouvelles de Thibaut. J'essaye un petit peu de lui dire... Attention, j'ai quelqu'un. À partir du moment où j'aurai tourné la page, ça sera pour de bon et ça sera définitif. Et je pense pas qu'il l'envisage à ce moment-là. Il pense que je serai là quand il sera prêt, quoi. Mais moi, à côté, j'ai cette histoire très légère qui m'apporte ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Juin 2015, ça fait 2 mois qu'on a commencé notre petite relation avec David, qui est une relation pansement. Il sait à quel point j'ai été meurtrie par cette séparation avec Thibaut, donc il est super cool. Les choses se font vraiment naturellement et c'est ça que j'apprécie parce que finalement, je pense qu'on s'attendait pas à ça, ni l'un ni l'autre. Ça me change de la façon dont j'ai été un peu traitée dans mon ancienne relation. Et j'apprécie vraiment cette approche où en fait on partage beaucoup de choses, on part le week-end à l'extérieur de Londres, on va visiter des beaux parcs, on fait des restos, vraiment des choses que je faisais pas du tout avec Thibaut quoi. J'ai de plus en plus de sentiments pour David, ça se concrétise, ça se solidifie et j'aime beaucoup notre relation. Elle me fait beaucoup grandir, il est australien donc il m'ouvre à sa culture, j'adore, j'apprends plein de choses avec lui, c'est chouette. J'ai oublié de mentionner quand même au moment de la séparation au mois de janvier, j'étais tellement triste et perdue que j'ai envoyé un email à la responsable des ressources humaines de ma boîte en lui disant que j'étais disponible pour bouger, j'étais mobile parce que notre compagnie a des bureaux un peu partout dans le monde et je lui ai dit voilà moi s'il y a un poste qui se libère je suis pas contre l'idée de partir. Malgré tout j'ai des chouettes projets avec David, on va partir un week-end à Paris pour son anniversaire. Il est de début août, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Et je suis ravie à cette idée, quoi. Cette perspective me plaît. Il prend plaisir à passer du temps avec moi. Je sens que je suis sa priorité. J'ai pas l'impression d'être son second choix. Donc ça me fait un bien fou. C'est sans prise de tête. Et c'est comme ça que la relation avance, que l'été se passe et qu'en septembre, David doit quitter l'Angleterre parce que son visa expire. Moi, en parallèle, ma mobilité avance. Il s'avère qu'un poste se libère à Sydney, en Australie, donc totale coïncidence. Les choses vraiment tombent au bon moment. David a le choix de repartir soit à Melbourne, la ville dont il est originaire, soit à Sydney, parce que la boîte a 2 antennes en Australie. On parle de rien. Enfin, moi, je lui dis que je pars à Sydney, mais libre à lui de partir où il veut. On se promet pas grand-chose à ce moment-là. Et finalement, il décide de partir à Sydney aussi. Donc, au mois d'octobre, voilà, c'est les adieux. Enfin, les adieux, les au revoir, en fait, parce qu'on décide de s'attendre. Moi, mon départ est fixé au 14 novembre 2015. Je pars pour l'Australie. J'ai un dernier verre avec Thibaut à ce moment-là pour lui dire, voilà, je pars. Je pars, j'ai eu ma mobilité, je pars rejoindre David. Donc, salut, quoi. Et c'est un peu... c'est irréel parce que pour la première fois, enfin, on se dit les choses un peu qu'on s'est pas dites depuis qu'on se connaît. Je pense qu'il y a encore de l'amour, mais c'est impossible. Il me donne pas ce dont j'ai besoin et je pense qu'il y a une incompréhension énorme. Et moi, je pars. Je suis très heureuse de repartir, de retrouver David. Le 15 novembre, j'atterris à Sydney. David est là. Il m'attend. Il a mis sa marinière. Il a troqué son bonnet pour une casquette à l'envers. J'adore ce look. Et il m'attend, grand sourire, à l'aéroport de Sydney. J'ai fait 24 heures de voyage depuis Londres et je suis KO, mais tellement heureuse de ce nouveau départ. C'est improbable, totalement, d'arriver là. Alors, je me suis trouvé un appart en amont. J'ai appris de mes erreurs. J'ai pas proposé à David de vivre avec moi. Je pense que ça, c'est quelque chose, voilà. Je vais pas me précipiter. J'ai une coloc. Lui habite à Bondi, au bord de la mer. Et on se voit au bureau, donc assez rapidement. Moi, j'ai une semaine pour m'installer, puis je commence mes fonctions. On est toujours à un étage de différence, donc c'est rigolo. Je suis au 4e, il est au 3e, et on se croise. Voilà, c'est une plus petite boîte, donc on est vraiment pas nombreux. Et je retrouve des amis, il y a toujours des amis d'amis qui sont assignés, donc je me fais un petit groupe assez rapidement. Et un soir, David me propose de boire un verre, donc chouette, bien sûr. Je le retrouve dans ce beer garden, c'est un endroit où on boit des bières dans un jardin. Et David me dit, en fait, écoute, j'ai quelque chose à te dire, voilà, t'es française. Je dis, oui, je suis française. Je suis australien, ouais, t'es australien. En fait, nous deux, ça va pas le faire, quoi. La distance, je me projette pas. Moi, j'aime trop l'Australie, j'ai pas l'envie de diviser ma vie entre 2 continents. Voilà, j'ai eu mon expérience en Europe, mais ça s'arrête là. Voilà, et il me plante dans le bar. C'est la douche froide, c'est l'histoire qui se répète. À nouveau, un garçon qui prend peur. Bon, à la fois, je peux comprendre parce que cette différence de culture et de nationalité peut faire peur. En plus, vraiment, aucun signal d'alerte. J'aurais pas pu m'en douter, quoi. On est début décembre. On est quand même dans la même boîte, donc on est amené à se voir tous les jours. Et là, il va y avoir une nouvelle Christmas party, donc un nouvel arbre de Noël organisé par la boîte. Bah là, on n'est plus ensemble. Le thème, c'est marin et pirate. Donc lui, il est en marin, super sexy, avec son petit chapeau de mousse, là. L'arbre de Noël se passe, c'est une super soirée, il se passe absolument rien. Je rentre chez moi, voilà, un peu pompette, mais j'ai passé une bonne soirée. Jour de l'an, mes parents débarquent pour passer un peu de vacances en Australie. Donc je pars, moi, en voyage un petit peu à travers la côte avec mes parents. David part à Melbourne pour le jour de l'an. Alors moi, entre-temps, j'ai arrêté ma contraception parce que bah, plus de copains, pourquoi prendre une contraception? On part en vacances. David m'envoie un email au sujet d'un livre qu'il m'a prêté et il voudrait le récupérer. Donc, ok, l'excuse un peu pour se voir, j'accepte, on se voit. Il me dit qu'il regrette, qu'en fait, peu importe d'où je vienne, s'il y a quelque chose à vivre, il est prêt à prendre le risque, etc. Donc, je suis partagée parce que je suis quand même attachée à ce garçon. C'est quelque chose d'assez léger à nouveau, on se voit après le boulot, on passe des bons moments ensemble. Et au mois de février, je décide de quitter mon job. Donc, sans mon boulot, j'ai plus de visa. Et si j'ai plus de visa, j'ai 3 mois bah, pour quitter le territoire. On décide de se prendre un appart ensemble. Voilà, j'ai pas de boulot, pas de visa. Bon, par contre, j'ai un mec. Donc ça, c'est chouette et on va vivre ensemble. Je profite de ce temps un petit peu sans boulot pour partir à Hong Kong visiter mon ancienne coloc. Donc, je prends un vol, je pars à Hong Kong et je suis malade, malade, mais malade comme un chien. Les sushis me donnent envie de vomir, la bière me fait vomir, enfin je me sens mais hyper mal. J'ai des envies de McDo à des heures improbables, je me nourris de churros, enfin c'est super bizarre. Je passe une semaine vraiment mal en point et je commence à avoir des boutons, enfin c'est super bizarre. Et je fais un test quand même de grossesse avant de partir à Hong Kong parce que je dis à David, j'ai 2 semaines de retard, c'est bizarre. Bon, le test est négatif, donc je me dis ok, c'est clairement ce chamboulement de vie qui me fait ce retard de règles. Donc je suis pas plus inquiète que ça. Je reviens au mois d'avril et deuxième test de grossesse et je suis enceinte. Waouh, je suis enceinte, donc je récapitule la situation, je n'ai pas de visa, je n'ai pas de boulot et je suis enceinte. Donc là c'est... Ok, réunion au sommet avec David, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 27 ans à cette époque, j'avais pas envisagé ça, David ne connaît pas mes parents, donc... Annoncer qu'on est enceinte à 18 000 km de chez soi, de quelqu'un qu'on n'a même pas encore validé auprès de ses parents, c'est une situation à laquelle je ne m'étais pas du tout préparée. Malgré ça, David me dit « Écoute, moi je suis revenue, c'est pas pour rien, je t'aime et on va faire en sorte que ça fonctionne. » Et il a assuré, mais d'une manière, j'aurais pas pu imaginer mieux. Et sa réaction m'a fait dire que ouais, c'était le bon, quoi. Et c'est fou, parce qu'on s'est rencontrés il y a un an, on s'est rencontrés en avril, allez, on s'est rencontrés à la Christmas Party 2014, mais on s'est mis ensemble en avril l'année d'avant, et là, un an après, je suis enceinte, et il est prêt à assumer cette situation et à devenir, à devenir papa, quoi. Lui, il se projette et il est hyper content. Donc, ok, on va se lancer dans cette grossesse, et on y va, quoi. C'est la réaction de David qui m'a tout de suite donné confiance en l'avenir parce qu'il n'a pas peur de dire des mots forts, de dire « je t'aime », de dire que je suis la femme de sa vie, de dire que oui, cet enfant, il arrive super tôt, mais qu'il n'est pas revenu pour rien. Et moi, cette phrase de « je ne suis pas revenu pour rien », c'est tout ce que je veux entendre à ce moment-là. C'est de l'engagement corps et âme dans cette nouvelle vie. Du coup, on emménage ensemble, à la fois je découvre la vie à deux, que je fantasmais mais que je n'avais jamais vécu, et ça se passe super bien. On a deux boulots, cette fois du coup différents. David travaille dans une boîte, moi dans une autre, et c'est chouette parce qu'on partage plein de choses. Quand on décide de garder cet enfant, on décide quand même aussi de l'annoncer à nos familles, donc bon, il y a quand même 12 heures de décalage. On veut pas non plus prendre mes parents au saut du lit, mais c'est quasiment ce qui se passe parce que on fait un FaceTime en fin de journée pour nous, donc en début de journée pour la France. Une pierre deux coups, quoi. Voici David, voilà, c'est le garçon avec qui je vis. Et deuxième nouvelle, je suis enceinte. Là, j'avoue que j'ai pas eu, bah, évidemment, la réponse et l'enthousiasme escompté, parce que c'est une sacrée décision, une sacrée responsabilité. Et je me rappelle de ce long email avec le sujet « La décision ». Ça, c'était un email de la part de mon papa. Et un email fleuve, dans lequel il m'explique à quel point devenir parent, c'est une sacrée responsabilité. Est-ce que je suis sûre de David ? Qu'est-ce qu'il advient de mes projets pro ? Cette grossesse, elle arrive comme un uppercut, quoi. On s'y attendait pas, elle nous surprend. Et elle surprend évidemment mes parents. Voilà, un long email auquel je réponds, je pense, en rassurant beaucoup mon père, parce qu'il est très heureux de la réponse. Il me répond derrière, ok, je retrouve ma fille dans tes mots, je sais que c'est toi, que c'est une décision prise à deux. Mes parents n'avaient pas pour projet de revenir en Australie tout de suite, hein, ils avaient passé un mois en janvier. Donc nous, on décide de prendre quelques semaines de vacances en août et on va arriver en France. Moi, je vais présenter David à toute ma famille. Je suis enceinte. Et la belle surprise, quand on atterrit à Londres, parce qu'on commence notre petit tour en Europe à Londres, où on voit tous nos amis et on leur annonce la grossesse, David me demande en mariage dans un photomaton. Un photomaton assez connu de l'Est londonien, où en fait, il y a quatre flashs et donc quatre photos distinctes. Il sort la bague au moment du deuxième flash et je suis super surprise et je suis hyper contente, évidemment. Je saurai par la suite qu'il a demandé l'aval à mon père sur FaceTime quelques semaines avant en Australie et qu'il était ultra stressé parce que la connexion ne cessait de couper et que mon père lui avait dit « David, ne demande pas la main de ma fille parce qu'elle est enceinte. Il faut que ça soit deux décisions totalement différentes, dissociées. Ne te sens pas pris au piège de demander la main de ma fille. » Je me rappelle, il a dit ça. Donc, et David a dit « Mais je me sens pas du tout obligée. C'est la femme de ma vie. Je suis ravie d'accueillir cet enfant et de passer le reste de mes jours avec Valentine. » C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Il est famille, il est loyal, il est solide, il est attentif, il est généreux, il est sincère, il est entier. Et c'est toutes ces qualités que mes parents souhaitaient pour moi. Voilà, on passe deux semaines aussi à organiser un peu notre mariage qui aura lieu l'année d'après dans le sud de la France. Début septembre, on repart en Australie pour la fin de la grossesse. J'accouche mi-décembre d'une petite Avril parce que c'est le mois qui a rythmé notre rencontre avec David. On s'est rencontrés au mois d'avril et puis j'ai découvert ma grossesse au mois d'avril. Donc c'était tout naturellement que notre petite fille s'est appelée Avril. Et puis depuis, il y a eu deux autres bébés qui sont nés dans le sud de la France. On est une famille de cinq aujourd'hui. D'un homme pansement, on est passé à l'homme de ma vie, quoi, qui a pansé toutes mes blessures, je dirais. J'avais envie de témoigner aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que j'ai rencontré Thibaut. Et je vois un peu la difficulté de s'engager de Thibaut comme un cadeau mal emballé avec du recul. Parce que ça m'a poussée dans mes retranchements, ça m'a poussée à faire des choix sur ce que je voulais vraiment. Et je le remercie, en fait. Je me remercie aussi d'avoir pu partir, parce que c'était très douloureux sur le coup, mais c'était vraiment, je le vois comme ça, un cadeau mal emballé. Et cet homme pansement, s'il est bien appliqué, il peut cicatriser les cœurs les plus brisés. Et j'aurais jamais misé un euro sur notre relation. Et le fait que ça soit si léger, si spontané, si naturel, il m'a pris comme je suis et j'ai pas eu besoin de me mentir ou d'essayer de ressembler à un tel ou un tel. Et je remercie David parce qu'il m'a récupéré un peu en morceaux et on s'est reconstruit ensemble. On a une magnifique famille aujourd'hui, franco-australienne. Aujourd'hui, on habite en France depuis 2020 et on est sur le point de plier bagages et de repartir en Angleterre pour des projets pro qui nous tiennent à cœur. Et nos enfants sont maintenant un peu plus grands et peuvent intégrer crèche et école sans trop de difficultés. La boucle est bouclée en Angleterre. On s'est rencontrés là-bas et on va élire domicile là-bas pour les prochaines années.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.